Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Remontée spectaculaire et effondrement épique dans la NFL. Est-ce que plus personne n'est à l'abri? 8 équipes, toujours sans victoire. Qui brisera le 0-3 cette semaine? Ne manquez pas nos prédictions pour la semaine 4. Nick Foles, Josh Allen, les histoires de car arrière volent encore la vedette. Vous devenez coach de la NFL aujourd'hui et vous bâtissez votre équipe par la course ou par la passe. Alors que la quatrième semaine de la NFL débute, avec nos experts, on regarde quel coach n'a plus le droit de perdre. Bienvenue à la Zone payante. C'est un plaisir de se retrouver encore cette semaine. Jean-Nicolas Gagné avec vous et surtout Jean Carrier, ancien entraîneur et analyste des matchs du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut, ça va bien Jean-Nic.
Et Stéphane Cadorette, expert football au Journal de Québec et de Montréal. Salut Stéphane.
Salut messieurs, content de vous retrouver.
Oui, ça va bien de mon côté, de vôtre aussi. On a eu une bonne semaine de football, une bonne fin de semaine. Plusieurs histoires encore qui sont venues ponctuer le téléroman de la NFL, les gars. Pas de blessures comme la semaine passée, mais plusieurs joueurs sont en train d'émerger de la saison 2020.
Mais d'abord, parlons de l'histoire qui se dessine pour cette semaine. La COVID fait son entrée dans les vestiaires de la NFL.
Ouais. Quelle mauvaise nouvelle, en fait. On se doutait là, que la saison allait être, à un moment donné, un jour ou l'autre, chamboulée par une nouvelle de ce genre-là. Aussitôt, ben c'est décevant, mais écoutez, c'est les Titans du Tennessee. Là, on parle à l'heure actuelle de 3 joueurs, 5 membres du personnel, puisqu'ils ont joué contre les Vikings dimanche. Les Vikings sont mis en isolement aussi, donc les deux équipes n'ont pas le droit d'aller à leurs installations. C'est fermé jusqu'à samedi au minimum, de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant. Chez les Vikings, il n'y aurait pas de cas positifs, mais quand même, ben, je sais pas toi, Jean, ce que tu en penses, mais pour moi, c'est des nouvelles inquiétantes. On veut pas voir ça dans la NFL, c'est sûr et certain. Premièrement, pour la santé des joueurs, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour le plaisir des amateurs, le monde du sport a eu la vie dure. On veut pas voir une autre ligue être obligée de suspendre ses activités. La NFL a été épargnée là, à cause de son calendrier automnal. Tu sais, l'hiver, on n'a pas souffert de ça dans la NFL comme les autres circuits. Mais ça peut vite faire dérailler le train. Donc, hâte de voir comment les équipes vont pouvoir gérer les éclosions. C'est pas évident, mais on sait qu'il y a des tests quotidien dans la NFL, ce qui fait en sorte que il y a quand même des chances qu'on arrive à contrôler, à limiter là, les dégâts dans la mesure du possible.
Exact. La grande question, c'était quand est-ce que la COVID allait faire son entrée? Et ouais. Là, elle est faite. Maintenant, c'est comment on va gérer ça du côté de la NFL. Pour l'instant, il n'y a aucune décision là, qui a été prise pour le match entre les Steelers et les Titans du Tennessee pour la semaine prochaine. Écoute, je suis convaincu que la NFL va suivre son plan qu'elle a prévu depuis le retour de la NFL sur la COVID. Donc, ça veut dire que au niveau des joueurs qui sont atteints, il faut qu'ils demeurent asymptomatiques pendant 10 jours ou tout simplement 5 jours et avoir 2 tests négatifs pour pouvoir retrouver là je pense leur équipe. On va voir aussi qui sont les joueurs atteints, première des choses, le personnel également, puis les décisions vont être prises en conséquence de ça. C'est très difficile pour nous de spéculer qu'est-ce qui va arriver cette semaine. On va avoir les développements dans les prochaines heures voire jours. Est-ce que aussi du côté des Vikings il va y avoir une éclosion? Pour l'instant tout semble au beau fixe. Ça semble vraiment là, situé vraiment simplement avec Nashville, mais je pense qu'il faut.
Mais le reste que la NFL est confrontée là à l'arrivée de la COVID, c'est plate. Non, on s'en doutait comme un peu sans vouloir se le dire. On se dit ah yes, on a du football depuis un mois, le retour à la vie normale. Mais là, c'est un peu comme un wake-up call qui nous arrive.
J'ai aimé, moi, ce que Jean disait là-dessus. C'était pas une question de si, c'était une question de quand.
Exact.
Puis, tu sais, c'était parti, là, un peu. Bon, il y avait des petits cas à gauche, à droite, mais on parlait pas d'éclosion. Tu sais, il y a eu un cas chez les Falcons dimanche dernier avant le match. Exact. Il y avait même été question, là, qu'à un moment donné, que les Falcons jouent pas leur match face aux Bears, mais ça a été vite écarté. On a vite contrôlé. Dans le cas des Titans, ce qui est inquiétant, c'est que 5 membres du personnel, 3 joueurs, puis là, ça, c'est au moment où on se parle, lors de notre enregistrement, qui est le mardi matin. C'est pas nécessairement évident là, pour la suite des choses. Reste à espérer que c'est une petite éclosion, que ça va être limité à ça. On souhaite vraiment là, que la NFL, que les Titans vont pouvoir limiter les dégâts.
Mais tu sais, c'était illusoire de penser, Jean-Claude, que quand tu regardes ce qui s'est passé avec la Ligue de baseball, ben le baseball majeur, de passer une saison au complet, quand t'es pas dans une bulle, d'avoir aucun cas de COVID dans ta ligue. C'était vraiment, je pense, c'était tout simplement illusoire de penser ça. Maintenant, faut agir en conséquence. Dans le cas des Titans, il y avait déjà un joueur aussi hein, dans le protocole de COVID. C'est le plaqueur Isaiah Wilson, d'ailleurs, qui était supposé revenir cette semaine en pratique. Donc, on va voir là, tout simplement les développements là, dans les prochaines semaines. Dans le cas du baseball majeur, il faut dire qu'ils ont fait un très bon boulot depuis le début où ça avait été un peu catastrophique.
Ouais, c'était mal parti.
C'était mal parti, mais depuis ce temps-là, il y a un bon contrôle. On va souhaiter que ce soit la même chose là, du côté de la NFL, puis que les protocoles fassent tout simplement leur boulot et qu'on puisse continuer à avoir du football parce que dans cette COVID-19, je sais pas pour vous autres les gars, mais ça fait mauditement du bien de voir du football de la NFL.
Oh que oui. Tu sais, ça va être spécial ce match-là en partant. Là. Les deux équipes peuvent pas s'entraîner cette semaine. Ça va être des meetings virtuels à la semaine longue. Préparation quand même qui est très très affectée, là. Autant du côté des Titans que des Vikings. Puis c'est des équipes qui se retrouvent pas dans des situations faciles. Les Vikings sont à 0-3, doivent se sortir du pétrin face aux Texans qui sont aussi à 0-3. Puis les Titans, eux, vont affronter les Steelers. Là, c'est déjà pas de la tarte. Quand tu dois le faire dans ces circonstances-là, c'est carrément pas l'idéal.
La seule chose que je me questionne là-dessus, Stéphane, peut-être que tu as la réponse, mais est-ce que du côté des équipes qui vont affronter ces équipes-là, on les met dans les mêmes circonstances? Du côté des Steelers, est-ce qu'on va juste leur dire de s'entraîner virtuellement ou ils vont pouvoir toucher le terrain?
Ben, de ce que je vois jusqu'à maintenant, ils semblent pas concernés parce qu'ils ont pas été en contact avec les joueurs et les membres du personnel.
Oui, non, je comprends cet aspect-là, mais l'aspect que tu vas les affronter, toi, tu vas avoir ta semaine de pratique normale, puis eux, ils vont avoir eu à gérer ça. Donc, tu sais, il y a un niveau
équitable. Il y a un avantage compétitif, là, clair, exact, du côté des Steelers dans ce match-là.
Aucun doute.
OK, ben les gars, reste que la vie continue. Il va y avoir une semaine 4.
On va commencer avec vos histoires de la semaine. Stéphane, quelle est ton histoire cette semaine?
Ben, pour moi, là, la grosse histoire, c'est l'émergence de Josh Allen. Puis là, certains vont dire, il était pas déjà émergé, lui, dans les dernières semaines? Oui, mais tu sais, quand tu avais battu des clubs comme les Dolphins, les Jets, rien contre ces clubs-là, là, soit dit en passant, mais ça reste que faut les voir comme ils sont en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas des grands clubs. Ce qu'a fait Josh Allen contre les Rams, moi, là, ça m'a franchement impressionné. De résister à leur assaut en fin de match aussi, il y a beaucoup de corps arrière qui se seraient effondrés à voir leur équipe là, perdre le contrôle comme ça, mais non, il est resté en contrôle. Il a mené une excellente séquence en toute fin de match, là, entre autres un 3-22 converti. Puis c'est surtout de comparer le Josh Allen de 2020 à Josh Allen de 2019. Quand tu regardes le pourcentage de passes complétées actuellement, il est à 71,7%. L'an passé, il a terminé à 58,8. C'est une différence majeure. Ça, c'est incroyable. C'est
gigantesque.
Oh, et c'est inimaginable comme différence. On peut pas savoir à quel point il a dû travailler sur ce point-là de son jeu. Là. C'est énorme comme travail derrière ça. 346 verges par match jusqu'ici. 193 l'an passé. Tu sais, c'est un joueur complètement différent. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait, les gars, la semaine passée. Jean-Nic, tu nous demandais, est-ce que Josh Allen va retomber sur terre? Puis je continue de dire que dans une certaine mesure, oui. Il maintiendra probablement pas des statistiques hallucinantes comme ça pendant toute l'année. Mais Josh Allen, est clairement, peu importe les chiffres, là, est en train de s'établir comme un corps arrière de premier plan. Puis je pense qu'on va le voir comme ça dans les prochaines années là, pour un joueur à qui on a manqué beaucoup de respect. Il est en train de s'imposer. Puis si j'ai d'autres jeunes studs, entre guillemets, là, qui sont en train de s'imposer, moi, j'aimerais porter une attention particulière à la classe de receveurs recrues. Il y a beaucoup de bons jeunes receveurs actuellement dans la NFL. On parlait d'une QV là, potentiellement historique pour 2020 après le repêchage. On ne sait pas si ça va être historique. Là, c'est trop tôt pour se prononcer. Mais il y a beaucoup de bons jeunes receveurs qui sont en train de d'éclore. On a vu Justin Jefferson, qui est probablement le seul point positif chez les Vikings actuellement, là, qui a connu un match de 175 verges. Il faut le souligner parce que le reste des choses à souligner au Minnesota, là, c'est vraiment affreux. Un gars comme T. Higgins, qui est, on parle beaucoup de Joe Burrow à Cincinnati avec raison, mais T. Higgins est en train de devenir une cible de choix pour lui, un choix de deuxième ronde au dernier repêchage, deux touchés dimanche. Gabriel Davis à Buffalo, c'est un autre receveur, il a franchi la barre des 100 verges. Écoute, c'est un choix de quatrième ronde, Gabriel Davis. On s'attendait pas forcément à des résultats comme ceux-là aussitôt. CeeDee Lamb qui fait le boulot à Dallas. Jerry Judy, qu'on verra jeudi soir avec les Broncos, qui est le joueur le plus ciblé de l'équipe jusqu'à maintenant, malgré des problèmes de corps arrière. Puis on a vu hier le match Ravens-Chiefs, Devin Duvernay, touché sur un retour de beauté, il nous a montré sa vitesse phénoménale. Donc, je pourrais continuer, on va s'arrêter là, mais beaucoup de bons jeunes receveurs qui vont être à surveiller cette année et dans les années à venir. Là, je pense qu'on est en train, tranquillement, pas vite, de placer les pions de ce côté-là.
OK, merci Steph. Toi, Jean, as-tu une histoire qui émerge de la fin de semaine?
Écoute, faut aller au match Browns-Redskins. Là, tu vas me dire, ouais, mais ça... Quel match plate! Mais c'est vraiment, moi, la côté du match qui, je pense, qui mérite d'être souligné. C'était la première fois dans l'histoire de la NFL qu'il y avait une femme arbitre, Sarah Thomas, et deux assistants coach, femmes évidemment, qui étaient sur les bancs de chacune des équipes, Jennifer King du côté des Redskins et Callie Bronson du côté des Browns de Cleveland. Je pense qu'il y a un effort marqué de la NFL pour, je pense, commencer à inclure les femmes, non seulement au niveau du coaching staff, donc des personnels d'entraîneurs, mais aussi au deuxième étage. On sait qu'il y a une Québécoise qui est avec les Eagles, qui s'appelle ouais. Catherine Reich également. Et je me suis entretenu un petit peu avec Guylaine Demers, qui est une professeure à l'Université Laval, une chercheuse émérite. Beaucoup, là, elle est spécialiste dans le travail entre les femmes, la place des femmes dans le sport, tout simplement. Puis elle me disait que au Super Bowl, la portion des femmes maintenant qui écoutent la NFL, c'est 50%. Puis il dit, la NFL a pas le choix de s'ajuster à ça. Puis on le voit, elle dit, de plein de façons différentes. Un, avec l'inclusion justement de femmes dans les personnels d'entraîneurs, ça prend des modèles pour les femmes. Évidemment, je pense pas qu'il va y avoir de joueuses bientôt dans la NFL, mais ça reste que c'est des belles histoires. Moi, je trouve ça très cool. Et l'autre point, ben, elle dit, tu le vois aussi dans les publicités. Les publicités un peu sexistes des années 80, elle dit, il y en a presque plus. Puis ça fait partie un peu du fait qu'il y a de plus en plus un plus gros auditoire féminin. Autant au Super Bowl, mais le pourcentage aussi est très, très fort. Parce que là, ils ont dit, oh, il y en a qui l'écoutent juste au Super Bowl. Oui. Mais le pourcentage est vraiment en train d'augmenter dans les matchs de saison régulière. Ça tourne je pense, autour de 40%. C'est beaucoup 40%. Là. Moi, je m'attendais pas à des chiffres comme ça. J'ai été surpris quand elle m'a dévoilé l'ampleur des chiffres. Là, la vraie question, messieurs, c'est est-ce que il va y avoir un jour un entraîneur-chef femme dans la NFL? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une bonne question. Tu m'aurais dit il y a 20 ans, est-ce qu'il va y avoir des coachs féminins dans la NFL? Je t'aurais probablement dit pas avant 100 ans. Ben écoute, ça a quand même augmenté. Ça a pris seulement 20 ans. Ben là, c'est peut-être la question maintenant qu'il faut se poser. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que la NFL, c'est la ligue qui n'est pas nécessairement la première à ce niveau-là. C'est souvent la NBA qui set le ton dans ces choses-là. à NBA, ça faisait longtemps qu'il y avait des assistantes filles, des femmes dans la NBA comme assistantes. Puis moi, je pense vraiment que la première entraîneur-chef du monde sportif va venir de la NBA, qui s'appelle Becky Hammon, à travailler avec les Spurs de San Antonio. Moi, je suis convaincu qu'elle va avoir sa chance comme entraîneur-chef assez rapidement dans la NBA. Est-ce que ça, un jour, ça va se transposer dans la NFL? Je vous pose la question. C'est difficile à dire. Je pense que oui. Moi, je pense que ça va venir un jour, mais ça va prendre du temps, évidemment.
Très intéressant. Ouais. C'est très intéressant, Jean. C'est vrai que c'est des chiffres impressionnants. 40%, c'est 40% des femmes qui regardent des femmes qui regardent un match le dimanche. Ça commence
surtout à prendre. Aux États-Unis, qu'elle me disait, le beaucoup plus populaire aux États-Unis qu'encore au Canada. C'est en train d'augmenter, mais ça prend quand même un peu plus de temps. C'est ça. Écoute, moi, c'est ma réflexion un petit peu. Puis tu vois que la NFL là, fait des efforts là, pour vraiment inclure la place les femmes dans leur sport.
Je pensais, Jean, que tu allais nous dire que c'était un moment historique parce que les Browns sont au-dessus de 500 pour la première fois en 6 ans. C'est quand même historique aussi, ça.
Ah oui, c'est un volet historique du match.
Extrêmement important, mais écoute, je l'ai gardé pour moi, Steph.
C'est bon. Ça durera pas longtemps, là. Peut-être que tu aurais été mieux de le souligner cette semaine. Là. Ça risque de plus être le cas la semaine prochaine.
Ah, je suis pas certain, moi.
On va t'entendre dans tes prédictions tout à l'heure. Merci, Jean. On reste avec vous après la pause et on fait nos quatre essais.